Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Nous sommes de retour en ondes, chers auditeurs. On est en ondes pour une chronique qui va nous être présentée par Noémie sur la maternité chez les élus municipaux.
Oui, merci beaucoup, Enzo. Donc, on a finalement trouvé une solution pour pas que le micro soit coupé à moitié, à croire qu'on veut pas m'entendre aujourd'hui. Mais j'ai trouvé une solution, fait que vous aurez pas le choix. Donc, c'est ça, là, ça fait beaucoup jaser là, en ce moment dans les médias, là, les voix là, des jeunes élus municipaux qui résonnent de plus en plus fort là, dans les couloirs du pouvoir québécois, là, portant avec elles une revendication d'équité là, en matière de congé parental. En effet, là, lors d'une conférence avec la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforêt. Le réseau des jeunes maires au municipal récemment pris la parole plaidant pour une révision urgente de la loi avant les élections municipales de 2025. La porte-parole du réseau et présidente là, du comité exécutif de la ville de Sherbrooke, Laure Letarte-Lavoie, qui est actuellement là, enceinte de 37 semaines, comme on vous disait dans l'introduction, là, a soutenu avec force là, que les 18 semaines de congé parental auxquelles elles ont droit là, en tant qu'élue municipale, c'est vraiment archaïque. Là. Elle a d'ailleurs souligner là, que la durée du congé là, qui date là, de 1979 est inadaptée et injuste comparativement là, justement aux 50 semaines de congé offertes aux mères québécoises là, en vertu du régime québécois d'assurance parentale, le RQAP. Fait que la situation actuelle là, pose réellement là, un réel défi en fait là, qui, pour les élus municipaux, notamment en ce qui concerne là, la maternité et la poursuite de leurs responsabilités dans le domaine politique. Et il est essentiel de comprendre là, que les congés limités à 18 semaines là, ne permettent toujours pas là, aux mères élues de concilier les obligations professionnelles avec les besoins de leur famille naissante. Le réseau des jeunes mères au municipal là, a formulé 4 recommandations concrètes là, afin de remédier à cette problématique. On a dans un premier temps l'extension du congé parental à 50 semaines là, au même titre que les autres travailleuses. Sinon, il y a également des mesures d'accommodement qui sont demandées là, à deux niveaux, soit la participation à distance là, aux séances du conseil, comme ça a d'ailleurs été le cas là, pendant la pandémie. Fait qu'on n'arrive pas avec quelque chose de nouveau. Sinon, il y a également le fait que qu'il y ait la délégation là, du vote des élus qui sont partis en congé de maternité. Là, le vote par procuration là, serait exercé pendant leur absence par un autre membre du conseil municipal. Ensuite, la quatrième proposition, c'est la création d'un fonds national pour l'embauche de soutien temporaire aux élus absents, ce qui permettrait là, l'octroi d'un soutien administratif à une conseillère devenue maire afin d'assurer le suivi des dossiers avec les citoyens. Là. Quand on compare, est-ce qu'on se console? Non, pas vraiment, en fait. Ça met vraiment en lumière là, le fait qu'il y a peut-être une petite problématique là, avec les élus municipaux là, qui sont proches de nous, avec d'autres juridictions là, qui mettent en lumière là, des pratiques plus inclusives et adaptées là, aux réalités des maires élus, là, notamment en Ontario avec le Municipal Act qui permet là, le vote par procuration. Et sinon, là, à Montréal, il y a également là, des élus en congé parental qui bénéficient là, d'un soutien administratif pour continuer à répondre aux besoins des électeurs. Pratiques là, qui font d'ailleurs partie là, des recommandations faites par le réseau. Bref, on comprend vraiment qu'il y a une nécessité là, d'une réforme législative afin d'assurer l'équité réelle entre maternité et engagement politique municipal, qui est indéniable. Là, je tiens tout de même à souligner là, un élément important, là, le fait que la rencontre là, entre le réseau des jeunes maires municipales et la ministre Laforêt témoigne d'une ouverture là, au dialogue et d'une volonté d'écoute. Là. En effet, les déclarations de satisfaction des deux parties reflètent l'espoir là, d'un changement imminent. Là. Je sais pas, chez vous les gars, vous êtes moins touchés directement par ça, là, mais je ne sais pas si vous voulez discuter un petit peu là, des enjeux entourant la conciliation famille et fonction électorale des maires.
Ben, je pense que c'est un sujet ouais, qui est quand même important et beaucoup plus important que ce dont il peut avoir l'air. notamment en règle d'égalité et d'équité homme-femme, en fait. Car je pense qu'en 2024, la question ne peut plus se poser, quoi. Ça ne peut plus être possible qu'une femme réfléchisse à sa carrière ou au choix qu'elle va faire, ici c'est en politique, parce qu'elle pourrait avoir un enfant ou tomber enceinte. Enfin, s'il n'y a pas d'adaptation, si le système ne s'adapte pas à travers des congés ou à travers des aides au fait que à la grossesse des femmes, il y a un vrai décalage, parce que comme je l'ai dit, ça va faire en sorte que tout un tas de femmes qui voudraient se lancer dans la politique ou réaliser un certain nombre de métiers, ne le feraient pas, soit y réfléchiraient, soit feraient des enfants plus tard ou n'en feraient pas, ou au contraire n'iraient pas en politique parce que ça serait impossible. Donc en fait, ça réduit la liberté en quelque sorte des femmes à faire ce choix-là, et donc une plus grande accessibilité à un congé de grossesse ou des aides liées à ça, ou une aide ou des congés pour les mères et les jeunes mères en politique. Je pense que ouais, c'est quand même primordial, même si ça paraît un petit sujet comme ça, mais c'est quand même assez important, même pour les jeunes mères qui viennent d'avoir un enfant, avoir un congé maternité, des aides, une structure pour les accompagner, c'est très important, je trouve.
Oui, définitivement. Puis, tu sais, moi, je me souviens, là, j'avais justement là, fait un travail là-dessus, là, de recherche, là, dans le cadre d'un projet universitaire. Puis, on avait vu vraiment le fait que pour les femmes en politique, pas seulement, là, on parle du municipal, là, mais de manière générale, là, au Québec, au Canada, il y a beaucoup de difficultés pour les femmes à s'impliquer là, dans la politique, parce que souvent, quand un homme décide de s'embarquer dans une carrière politique, c'est la femme qui va vraiment plus s'impliquer au niveau familial. Parce que souvent, c'est un métier qui prend beaucoup. Versus quand c'est une femme, en fait, il n'y aura pas nécessairement le sacrifice qui va se faire là, du côté son conjoint, sa conjointe. Fait que c'est un enjeu qui est très, très important à aborder. Puis comme tu le disais si bien, là, Enzo, ça paraît simple, ça paraît pas simple, mais ça paraît comme logique, mais c'est quand même vraiment quelque chose d'assez gros là, parce que on sait très bien que souvent le rôle revient à la mère là, de plus s'assurer là, que toutes les fonctions familiales, pas toutes les fonctions familiales, mais tout est bien organisé dans la famille pour que personne manque de rien. Fait qu'il y aurait vraiment là, aussi une redistribution là, à faire là, au niveau des tâches là, que chacun a dans un couple, surtout pour les femmes qui décident d'aller en politique. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de sacrifices là, à faire, puis sacrifices qui sont pas les mêmes que pour les hommes.
Ben, effectivement, puis... je crois que c'est ce qu'on appelle le care, c'est ça, ou le soin. Tu sais, les femmes ont beaucoup plus de temps de travail, mais un travail qui est pas un travail de profit pour une entreprise là, mais c'est du travail quand même, mais du travail
tâches
de
ménagères,
ouais, les tâches ménagères, ouais. S'occuper des enfants,
les mettre au lit, les laver, c'est, les salles, c'est ça. Les lunch, tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme une problématique, en fait, de redistribution aussi des tâches là, qui sont inéquitables souvent dans les couples. Tranquillement, ça semble vouloir se placer dans certains cas, mais il reste beaucoup de travail à faire encore. Puis là, quand on parle de personnes, de femmes qui sont impliquées dans le milieu politique, la charge pour, par exemple, son conjoint devient encore plus grande. Fait que c'est, oui, il doit prendre une part de manière générale, mais dans ce cas-là, c'est de prendre peut-être là, le rôle principal qui revient plus souvent, là, malheureusement, aux femmes.
Ouais, c'est clair, puis ça crée une vraie inégalité, hein, comme tu le dis, sur la question du temps, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des études... J'ai pas le nom des études exactes sous les yeux, mais c'est un sujet sur lequel je m'étais renseigné. Puis il y a des études qui prouvent que dans des couples hétéros, là, l'homme à la fin a beaucoup plus de temps libre que la femme au sein du couple, parce qu'elle aura beaucoup plus de temps, comme on le disait, à faire tout ce travail. Ce travail familial, ce travail aux côtés des enfants, et en fait surtout les mères. Hein. Et en fait, déjà dans le couple sans enfants, il y a déjà ce rapport-là. qui se retrouvent, le couple sédentaire qui habite ensemble, on retrouve ce problème de temps, où l'homme va avoir beaucoup plus de temps que la femme, parce que la femme est beaucoup plus prise sur les tâches ménagères, toutes ces choses-là. Et là, en l'occurrence, ta chronique, c'est sur les mères. Et sur les mères, c'est encore plus vrai, parce que on se rend compte que c'est plus la femme qui s'occupe des enfants, de les emmener à l'école, toutes ces choses-là. Donc l'homme aurait beaucoup plus de temps libre. Donc c'est toute une structure aussi sociale qui... Et c'est avec ce genre de mesures qu'on peut déconstruire aussi... avec ce genre de mesures, en réfléchissant, en fait, au rapport qu'ont les mères dans leur travail, puis ici, en l'occurrence, dans la politique. Et c'est en réfléchissant à comment on change ces structures, à comment on s'adapte, à plus d'équité au sein du couple qu'on peut impacter ces inégalités-là aussi.
Exactement. Puis tu sais, c'est un sujet que ça fait pas si longtemps qu'on met de l'avant.
Non, c'est vrai.
Fait que selon moi, tu sais, il y a, je suis quand même vraiment optimiste dans le sens où est-ce que il va sûrement avoir peut-être une équité réelle en la matière de des tâches quotidiennes là dans un ménage, que ce soit pour un couple. Là, on parle de couple hétéro, mais on peut aussi extrapoler là dans tous les types de relations là, mais nécessairement là, il y a souvent une personne qui va prendre un petit peu plus le lead que l'autre, mais là c'est de rendre justement là les tâches, c'est de rendre vraiment la tâche là divisée en deux plutôt que trois quarts, un quart ou toutes les portions que vous voulez là qui sont inéquitables.
Oui. Effectivement, ouais, non, c'est mais en même temps, puis aussi la famille, tu sais, c'est une structure en soi, parce que là on parle aussi dans le couple ou quoi, c'est une structure en soi, puis le rapport à la famille, enfin la famille est corrélé aussi avec le système économique, le système dans lequel on vit, donc les deux vont évoluer ensemble. Donc,
ouais, définitivement. Puis tu sais, c'est ne pas c'est aussi prendre en considération qu'il faut pas laisser de côté l'éducation de l'enfant.
Ah, complètement.
Fait que tu sais, c'est comme oui, on restructure, mais on n'enlève pas ce qu'on fait déjà de bien.
Ouais, puis aussi attendre aussi de l'État, je pense aussi certaines choses comme dans l'éducation nationale ou toutes ces choses-là, ça pourrait aussi venir de là aussi bon, je suis pas en train de faire un programme politique là, mais je sais pas moi, ou des plus de crèches qui seraient collectivisées pour les parents qui travaillent à deux, ou une plus grande accessibilité pour les crèches ou les lieux où on s'occupe des enfants. Peut-être que crèche, c'est un mot qu'on dit en France, c'est peut-être pas le mot
mais
ici.
Mais on comprend aussi.
C'est quoi ce qu'on dit?
C'est qu'il y a des garderies.
Les garderies, ouais. Pour enfants qui, des fois aussi, sont dans les grandes villes, sont pas forcément accessibles pour les couples plus modestes. Donc, c'est toutes ces structures-là aussi qui peuvent déterminer tout ça. Parce qu'un couple qui peut pas faire garder son enfant, bon, bah là, la question se pose. Puis, encore une fois, ça va être souvent la femme, culturellement, qui va s'en occuper, alors que si on redéfinissait ça, s'il y avait plus d'accessibilité aussi, et plus de structures qui peuvent aider les parents et les couples à s'occuper finalement des enfants, pas remplacer l'apport que eux ont pour leurs enfants, mais un appui, une aide, une structure en plus, ça pourrait aussi faciliter les choses. Et comme on en parlait ici, une aide pour les femmes qui dans certains corps de métier, ou là en l'occurrence pour la politique, pour les femmes qui se lancent dans la politique, toutes ces structures là qui pourraient aider à déconstruire tout ça aussi.
Je suis bien d'accord avec toi. Et merci beaucoup d'avoir participé.
Avec plaisir. Est-ce que vous aviez quelque chose? Oh, ouais, pardon.
Non, mais je voulais juste dire, parce que j'ai volé le micro à Marc-Antoine, il ne peut pas participer. Mais bon, merci beaucoup.
C'est avec plaisir. Un sujet très intéressant. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on...
Moi, ça va. Je pense que ça faisait le tour.
Je voulais juste dire, c'était très intéressant ta chronique, justement. J'étais allé à une conférence dans le cadre d'un cours, justement. Et la conférencière parlait justement de ça, du fait que c'était très difficile parce qu'il n'y avait pas de congé, notamment. Là. Puis la conférencière, c'était quelqu'un qui était en politique aussi. Là. Fait qu'à la naissance de son premier enfant, comme quitter le monde politique pour prendre soin de son enfant.
Oui, exactement. Puis c'est ça, dans le domaine politique, c'est à un autre niveau parce que l'implication est tellement grande. Puis ça doit être le cas dans d'autres domaines, mais là, je parle en connaissance de cause du fait que j'étudie là-dedans, puis que j'ai eu la chance de parfois avoir des stages ou rencontrer des femmes dans le milieu politique. Je souhaite justement que, oui, là, ça se passe au municipal, là, mais je souhaite qu'il y ait... une restructuration peut-être là, à grande échelle à ce niveau-là, parce que, comme je disais, le travail universitaire que j'avais fait, moi, c'était plus de manière globale. En fait, c'était au niveau de l'Assemblée nationale. Les écarts étaient grands, mais on parlait pas nécessairement...
C'est fact.
Et nous sommes donc de retour en onde pour une entrevue avec Madeleine Pastinelli. Bonjour Madeleine.
Bonjour.
Bonjour, enchantée. Alors, vous êtes présidente de la Fédération québécoise des professeurs d'université, la FQPPU. Et nous vous accueillons aujourd'hui afin de discuter de la nouvelle série Faculté en alerte, disponible sur la plateforme de Savoir Média qui aborde la liberté académique des professeurs. Tout d'abord...
Oui, voilà la série lancée ouais. Aujourd'hui.
Oui, ça se lance à partir d'aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, voilà.
Parfait, merveilleux. Merci pour cette précision. Tout d'abord, le documentaire aborde principalement hein, les pressions sociales, économiques et politiques qui s'imposent de plus en plus dans les milieux académiques. Moi, ma première question, c'était qu'est-ce qui a poussé Savoir Média à aborder cette question et ses différents enjeux ?
Cette série, en fait, c'est une collaboration entre notre fédération et Savoir Média. Nous, la liberté académique et les menaces à la liberté académique, c'est une préoccupation tout à fait centrale pour notre fédération depuis très longtemps, sinon depuis toujours. Et on s'est aperçu dans ces dernières années, notamment en lien avec les débats autour du projet de loi sur la liberté académique, qui est maintenant une loi sur la liberté académique, mais aussi dans toutes les interventions publiques qu'on fait sur le sujet, que le principe de la liberté académique était plutôt mal connu d'un public élargi, parfois même mal connu de certains chercheurs universitaires. Et donc, en fait, on a voulu essayer de trouver des manières d'informer le public, de mieux faire connaître le principe de la liberté académique, ce que c'est, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important, et surtout pourquoi c'est important pour tout le monde et pas juste pour les chercheurs universitaires ou pour les profs d'université. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la Fédération avait approché Savoir Média pour leur proposer un projet d'émission sur ce thème-là, et ça a fini avec cette série.
De manière plus précise, en fait, là, c'est ça, vous avez parlé là, de la liberté académique. L'épisode 3 là, parle de ça, mais dans un contexte là, de classe et notamment de l'utilisation là, de certains mots qui indignent là, une partie des étudiants. Là, pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet-là, sans retracer évidemment tout l'épisode?
Ben, en fait, c'est ça, il y a 6 épisodes qui abordent le thème de la liberté académique sous des angles différents et sous des questions différentes. Et il y a cet épisode-là qui porte sur la liberté académique en salle de classe autour d'une question qu'on pourrait en gros résumer à est-ce que la liberté académique, ça veut dire qu'on a le droit de tout dire dans une salle de classe? Puis c'est quoi les limites de ce qu'on peut ou peut pas dire dans une salle de classe? Et pourquoi c'est un enjeu pas de pouvoir tout dire, mais en fin de compte, d'avoir la possibilité et de protéger le droit des enseignants universitaires de parfois, peut-être, dans la salle de classe, énoncer des idées, présenter des thèses, des travaux qui peuvent heurter la sensibilité de certains étudiants. Et donc, à quoi ça tient, en quoi ça consiste, pourquoi c'est un principe qui est important?
Ben, merci pour votre réponse. Je voulais savoir si c'était un enjeu qui selon vous, si aussi une des raisons de cette série qui traite de cet enjeu-là est du fait que c'est un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de place dans les institutions universitaires.
Ben, disons que si on parle beaucoup de liberté académique et si, nous, on a jugé utile de faire cette démarche-là, c'est parce que, justement, ce qu'on vit, c'est de plus en plus de situations où la liberté académique se trouve compromise, en fin de compte, où la liberté académique se trouve menacée. Et c'est dans ce contexte-là que pour nous, c'est important de faire comprendre à un public aussi large que possible pourquoi c'est important de préserver la liberté académique. Si je peux prendre l'exemple, peut-être, de ce qu'on peut dire dans une salle de classe, hein, je veux l'essentiel de l'épisode va cadrer les choses en expliquant que la liberté académique en classe comme ailleurs, c'est pas la liberté de tout dire et de dire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des limites à ce qu'on peut dire qui sont prévues par la loi. Et donc, on n'a pas le droit de tenir des discours haineux, on n'a pas le droit de faire des diffamations. Et la liberté académique est absolument pas un cadre qui permettrait de déroger à ce que sont les lois. Donc, les lois s'appliquent de la même manière en classe qu'ailleurs. Ce que la liberté académique prévoit, en lien dans le contexte d'une salle de classe, c'est que l'administration des universités puisse pas imposer à ceux qui enseignent de ne pas aborder certains thèmes ou certaines idées parce qu'ils seraient susceptibles de heurter les sensibilités de certains étudiants. Et ça, c'est fondamental pour une raison bien simple, c'est que la formation, l'avancement des connaissances, en fait, ça suppose le plus souvent de remettre en cause des idées qui sont tenues pour vraies, de questionner les manières de voir pour remettre en cause des visions de sens commun qu'on a spontanément et pour en sortir. Et donc, si on ne peut pas aborder des idées qui heurtent les sensibilités, ben ça veut dire qu'on pourra pas passer autrement, on pourra pas se former, on pourra pas, avoir un développement de sa réflexion.
Dans la même lignée que la question précédente de ma collègue, l'épisode 6 du documentaire aborde les pressions que les universités subissent en raison des questions polémiques qui y sont discutées. Quelles sont les questions qui soulèvent des problématiques pour la liberté académique des professeurs?
En fait, toutes les questions qui occupent une place importante dans l'espace public et vis-à-vis desquelles des groupes de pression de toutes sortes sont susceptibles d'avoir un intérêt particulier, soit à ce qu'on dise certaines choses dans les universités, soit à ce qu'on n'aborde pas certains sujets. Par exemple, aux États-Unis, il y a des groupes conservateurs qui ont fait et qui font toujours pression actuellement pour qu'on interdise les études sur le genre, pour qu'on cesse d'aborder les questions de genre à l'université. Et ça pour, dans l'objectif d'arriver à essayer de faire valoir ou de maintenir une conception naturaliste du genre, là, dans lequel le genre n'existerait pas, il n'y aurait que le sexe biologique et puis ce qui suppose, en fait, ce qui est un outil pour ces groupes de pression-là, pour essayer de remettre en cause les efforts des groupes progressistes qui veulent faire reconnaître des droits aux personnes qui sont non conformes ou aux attentes normatives de genre. Donc, mais c'est un exemple parmi plein d'autres. En fait, toutes les questions qui sont l'objet de débats publics, politiques et qui intéressent différents groupes de pression sont susceptibles de donner lieu à des pressions qui se transportent à l'université.
Oui, définitivement, là, j'en doute pas. Puis votre exemple là, est très parlant par rapport aux États-Unis, mais qui se passe juste à côté de nous, même si c'est pas directement ici. Baignant là, dans le domaine juridique, là, j'ai pas pu m'empêcher d'aller consulter là, la loi à cet effet-là. T'sais, vous en avez parlé. Mais en fait, là, aussi en parallèle avec ce que vous disiez, là, juste avant la question de mon collègue Marc, dans le fond, la liberté là, académique, ça vise aussi, dans le fond, le fait de pouvoir dire quelque chose, ça vise à ce que ce soit encadré, mais que, justement, ce qui est divulgué contribue à l'accomplissement là, de la mission d'un établissement d'enseignement. Là. T'sais, comme vous disiez, c'est pas tout est permis. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif clair avec, justement, la mission de l'établissement.
En fait, la mission des universités, c'est l'avancement des connaissances, c'est la transmission des connaissances. Puis l'avancement des connaissances, Et également, la critique des connaissances. Hein? C'est-à-dire que pour faire avancer les connaissances, ben, il faut les critiquer, il faut les remettre en question. Et ça, c'est tout à fait fondamental dans nos sociétés parce que la science dans nos sociétés, elle occupe un rôle, une position particulière. C'est à partir des connaissances scientifiques que nos sociétés s'autorégulent. Hein? Quand on fait des lois, qu'on décide que, par exemple, on va permettre, légaliser la consommation de marijuana ou qu'on va interdire la cigarette ou qu'on va augmenter les taux d'intérêt ou pas augmenter les taux d'intérêt. Toutes les décisions politiques qui sont prises, elles reposent sur des connaissances scientifiques. Et donc, il y a des enjeux sociaux vraiment importants aux connaissances qu'on produit. Et c'est sûr qu'il y a des intérêts politiques, économiques, idéologiques qui sont susceptibles de vouloir contrôler ou infléchir ce que sont les connaissances qui sont produites parce que c'est déterminant de la manière dont nos sociétés se régulent et puis des lois qu'on adopte.
Je suis bien d'accord avec vous. C'est moi, j'ai un problème avec mon micro. Dans le fond, là, c'est vraiment ça. C'est de ne pas s'attarder, dans le fond, à une seule doctrine, une seule idéologie ou morale là, par rapport justement au fait que ce soit la dominante ou c'est ça qui a été fait préalablement.
Oui. Puis je veux dire, peut-être une autre chose qui est importante qu'il faut souligner, c'est que la liberté académique, il y a une condition de possibilité de l'avancement des connaissances qui est que pour pouvoir partir de là où on est et développer des nouvelles connaissances, parfois il faut remettre en cause radicalement ce que sont les connaissances établies et là où on en est. Si on prend un exemple facile, c'est celui de la révolution copernicienne, hein, de ce que Copernic a amené comme idée, en disant, ben, on a toujours pensé que c'était la Terre qui était au centre et que tout le reste tournait autour. Et donc, l'exercice intellectuel consistant à dire, ben, finalement, peut-être que pas, peut-être que c'est pas la Terre qui est au centre et que la Terre tourne comme tout le reste et tout ça, ça suppose, hein, de remettre en question ce qu'on tient pour vrai. Mais pour qu'on puisse faire ça, il faut que les chercheurs universitaires aient la liberté de se tromper. Il faut qu'on ait la possibilité de, en bon français, on dirait penser en dehors de la boîte, puis avoir des idées qui peuvent des fois avoir l'air bizarres ou folles ou décalées par rapport à ce que on a toujours cru, mais avoir la possibilité quand même, si un chercheur universitaire qui est spécialiste de quelque chose a une intuition, et a l'idée qu'il y a une piste qui pourrait être prometteuse et qui veut la suivre, qu'il ait la possibilité d'explorer des pistes puis des idées et éventuellement de se tromper. Je veux dire, c'est que si les chercheurs universitaires ont peur de perdre leur emploi parce que tu poses une question de recherche qui dérange, ben tu vas plus poser de questions de recherche qui dérangent. Puis si on ne pose plus de questions de recherche qui sont nouvelle ou originale, ben on va faire que répéter des affaires qu'on sait déjà, puis la connaissance ne peut pas avancer dans ces conditions-là.
Oui, merci beaucoup, Madame Pastinelli, pour la réponse.
Ouais, ça fait plaisir.
Effectivement, merci beaucoup. Alors on va bientôt être de conclure on va bientôt devoir conclure cette entrevue et bientôt être devoir être de retour en ondes. Je vais vous laisser conclure, je vais vous laisser le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose sur cette question-là, sur ces enjeux ou sur la série en tant que telle. Je vous laisse le mot de la fin puis après nous retournerons en ondes en musique.
Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. La série qu'on a produite, elle a été faite par l'équipe de Savoir Média. Hein, ils ont vraiment une expertise en communication pour aborder le thème sous l'angle de questions qui sont susceptibles de rejoindre l'intérêt d'un public assez large, finalement. Puis en lien avec des questions qui ont été dans l'actualité ces derniers mois ou dans les deux dernières années. Fait que je pense que c'est une série qui a tout ce qu'il faut pour parler au public. Donc, j'encourage vos auditeurs à l'écouter.
Ben, merci beaucoup. Merci pour vos réponses. Merci pour l'entrevue. Et puis, ouais, on le répète. On invite tous nos auditeurs à se renseigner sur cette série, à aller écouter cette série. Je le rappelle, Faculté en alerte, c'est le titre de la série, qui sera diffusée dès le 22 février, sur les ondes de Savoir Média, à partir de jeudi, les jeudis. À 21h. Mais merci encore, Madeleine, pour cette entrevue.
Je vous remercie.
Ben, merci bien.
Au revoir.
Belle journée. Et merci à nos auditeurs. Et on se retrouve dans quelques minutes pour ma chronique sur Julian Assange. À tout de suite.